C'est l'été, et comme l'été approche, eh bien c'est la dernière émission de la saison des Voix de l'Alma, avec autour de la table aujourd'hui Jacques Griffaut du Scribe. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Hugues Dedy de la librairie Le Comptoir de Sildavi, salut.
Bonjour.
Et Maurice Beau de Beau Livre, toujours en place.
À l'ombre, mais sur place.
Alors aujourd'hui, l'auteur du jour va nous être présenté par Jacques, il s'agit de Robert Little.
Oui, alors je suis à la fois très excité et très nerveux. Très excité parce que je trouve que c'est un auteur formidable et je voudrais vous inciter à le lire, en particulier à lire son dernier ouvrage dont je vais vous parler ensuite. Et puis très nerveux parce que je n'aurais pas raté ma présentation tout de même. Alors voilà, Robert Little, il a d'abord été grand journaliste à Newsweek. Newsweek est un magazine, un hebdomadaire américain. Et il est spécialisé dans les affaires russes et moyen-orientales. Et puis très vite, il va se consacrer entièrement à la littérature. Il va publier une quinzaine de romans, essentiellement des romans d'espionnage et d'espionnage qui se passe au moment de la guerre froide. Lorsque le mur de Berlin est tombé, on a pu penser que sa source d'inspiration, qui était la guerre froide, elle s'était tarie, et donc on n'allait plus entendre parler de lui. Mais pas du tout, car il a écrit ensuite un livre absolument formidable sur la CIA, qui est une histoire de la CIA, le grand roman de la CIA, etc. Alors, il y a sans doute 90% de vrai là-dedans, et puis 10% qui est un peu romancé, mais c'est un livre extraordinaire que je vous invite vivement à lire. Et puis, il a écrit aussi un autre livre qui s'appelle Légende, je crois que j'en ai parlé ici d'ailleurs, de Robert Little, il y a 2 ou 3 ans à peu près. Alors, Robert Little maintenant a 74 ans, et il vient d'écrire un très grand roman qu'il a mis 30 ans pour écrire, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi il a mis 30 ans pour l'écrire. Ce roman s'appelle « L'hirondelle avant l'orage ». Ça, c'est la traduction en français. Le titre en anglais, c'est « The Stalin Epigram », c'est-à-dire « L'épigramme de Staline ». Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, en 1913, d'abord, il y a un poète qui s'appelle Ossip Mandelstam, qui est un Russe, qui a publié un premier recueil de poésie qui s'appelait La Pierre. Et pour beaucoup, il a été considéré comme le plus grand poète russe du XXe siècle, dont Staline d'ailleurs. Alors attendez, ne coupez pas, on va pas parler de poésie simplement et autres. Dites-vous bien que c'est un roman écrit. Vous allez lire, c'est un roman que l'on lit absolument comme un polar. En 1934, Mandelstam est un déçu du régime. C'est la dictature de la médiocrité, pas la dictature du prolétariat, dira-t-il. Et conscient de l'importance de la poésie en URSS, il dit « Je suppose que je ne devrais pas me plaindre. J'ai la chance de vivre dans un pays où la poésie compte. On tue des gens parce qu'ils en lisent, parce qu'ils en écrivent. » Et il annonce à ses amis qu'il va détruire Staline avec un poème. Un poème explosant de vérité dont l'écho se propagera à travers le pays comme les ondulations créées par une pierre lancée dans l'eau stagnante. Lorsqu'on lui réplique que Staline le tuera s'il le fait, il l'admet, il dit « Les exécutions me terrifient, surtout la mienne d'ailleurs. » Pas question de lui faire entendre raison. Il y a une de ses amies qui est poétesse qui lui dit « La dernière chose dont la Russie ait besoin actuellement, on est en 1934 je vous rappelle, c'est la mort d'un poète de plus. » En vain, il va écrire cet épigramme dans lequel il traitera Staline de montagnard du Kremlin et il le peindra comme le bourreau et l'assassin des moujiks. Alors vous voyez tout de suite que ça va entraîner bien sûr des conséquences terribles. Alors je vais rien vous dire de la suite de cet admirable roman, ça se lit vraiment comme un polar. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un roman polyphonique, c'est-à-dire que les voix alternent la voix du poète, ensuite la voix de sa femme, la voix d'une amie intime qui est une poétesse, son frère en poésie qui est Boris Pasternak prend la parole aussi. Il y a une comédienne très jeune et très belle qui s'appelle Zanaïda Zaistova Antonova, et puis le garde du corps de Staline est là aussi, et un ancien champion d'haltérophilie, et ils sont tous là pour retracer donc le douloureux destin de Mandelstam entre 34 et 39, parce qu'il va subir, comme vous pouvez vous en douter, des arrestations, des tortures, des privations, un exil absolument pathétique et misérable loin de Moscou. Et alors que reste la fascination tout de même du poète pour Staline, parce qu'il a tout de même une certaine fascination pour ce dictateur, et aussi la fascination réciproque du dictateur pour ce grand poète, et l'énervement de Staline qui n'arrive pas par la force à mater en quelque sorte ce poète. C'est un livre absolument formidable que je vous invite vivement à lire. Alors je sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, mais maintenant je vais vous donner un dernier argument. Si vraiment vous rentrez pas dans ce livre, je vous l'échange à 2 conditions. Pour autant que vous l'ayez acheté au Scribe d'abord, hein. Et la seconde condition, c'est pour autant aussi qu'il n'y ait pas trop de traces de chocolat et de confiture dans le livre. Mais lisez L'hirondelle avant l'orage, vous allez voir, c'est un livre en même temps d'histoire, tout à fait fascinant, passionnant, superbe. Enfin, j'ai pas assez de qualificatifs pour faire ça. Et je peux vous dire que toute la presse en a parlé dans des termes aussi louangeurs, je sais plus très bien, louangeurs, on va dire, que les miens.
Voilà. Et c'est de Robert Little.
Alors Robert Little, eh bien oui. Eh bien oui, son fils s'appelle Jonathan Little et c'est lui qui a écrit Les Bienveillantes, qui a eu le prix Goncourt il y a 2 ans, je crois.
Édition.
Les éditions sont Baker Street, une nouvelle maison d'édition, Baker Street.
Hugues Dedy, on parle dans l'univers de la BD, dans l'univers de Blutch.
Oui, moi aussi je suis fébrile parce qu'on présente tous des auteurs et des livres qu'on aime bien. Alors effectivement, Blutch, bon petit rappel, il a reçu le grand prix au Festival International de la Bande Dessinée Angoulême cette année pour l'ensemble de son œuvre, une œuvre vraiment vaste dont beaucoup de titres, hélas, sont épuisés. Alors l'association a eu la bonne idée de rééditer Sunny Moon, initialement paru dans les années 90 chez divers éditeurs et qui était jusqu'alors complètement épuisé. Alors de quoi ça parle ? Sunny Moon est la princesse de Donalville et suite à un diagnostic grave, elle est mise en quarantaine par le roi, son père. En fuite sur les conseils de sa marraine la fée, elle se rend à Saint-Tropez pour rencontrer le docteur Bloody Love. Et dès le début de sa fugue, prince charmant et chasseur de primes se lancent à sa poursuite et vont finir par s'entretuer. Donc dans ce pays où des hommes mystérieux posent des bombes dans les boîtes aux lettres des filles, où les princes charmants se multiplient à l'infini, dans ce pays, eh bien, seul Sunny Moon semble avoir la tête sur les épaules. Donc ce bouquin, c'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir la folie d'un auteur aussi doué graphiquement que doté d'une inspiration géniale. Car Blotch, c'est une sorte de sampleur à la manière d'un DJ qui récupère des sons à droite à gauche, qui les mixe, les assemble, les distorte, les découpe pour créer de nouveaux morceaux. Eh bien, Blotch pioche allègrement dans les contes de fées, la bande dessinée, Tintin, Disney, le cinéma d'aventure, le film d'espionnage. Il met en scène un univers débridé, fruit d'une imagination d'un gamin nourri d'images, d'icônes de la culture populaire. Et de ce terreau qui fleure bon l'enfance et la nostalgie, l'auteur tire des récits surexcité, aussi absurde que drôle, bourré de parodies, de détournements surprenants, de mises en abîme tordantes dans un univers graphique qui mêle plusieurs techniques, un univers graphique en tout cas sublime. Voilà, donc ça s'appelle Sunny Moon, c'est l'intégrale exhaustif réédité à l'association et l'auteur c'est Blotch.
Maurice Beau, vous êtes allé voir l'exposition Ingres et les modernes. Vous avez été époustouflé, vous êtes reparti avec le catalogue.
Oui, et pour la seconde fois en 2 ans de chronique, je vous propose comme coup de cœur le catalogue d'une exposition du musée Ingres. Cette fois, le catalogue donc de l'exposition Ingres et les modernes. Alors, si c'est ce n'est pas mon rôle de vous entretenir d'une expo aussi remarquable soit-elle comme celle-ci, je tiens à vous conseiller de faire l'acquisition et de vous plonger dans la lecture du catalogue de cette expo. Et je vais essayer de vous exposer ici 5 raisons d'acheter le catalogue, même si vous n'avez pas vu l'expo, ce qui serait un tort. Alors, il est édité chez Somogy, aux éditions d'art, avec le concours du Musée Ingres et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. Alors d'abord, l'objet est beau, avec une image lenticulaire composite en couverture, ce qui est fort amusant d'ailleurs. Hugues laisse le catalogue, c'est parfait, voilà. Alors deuxième point, une coordination éditoriale claire et synthétique de Christine Fuseau et Clémentine Petit vous permettra une lecture vraiment limpide au travers quand même d'un dédale de citations et d'auteurs d'artistes assez très éclectiques. Troisième raison, on y retrouve certaines pièces qui ne figurent pas dans l'exposition montalbanaise. Et elles avaient beaucoup plus leur place dans un ouvrage de ce format-là, mais ça enrichit la réflexion sur l'ensemble. Techniquement, ce travail de reproduction, d'ailleurs, est irréprochable. Hein. Toutes les œuvres sont représentées en intégralité, c'est particulièrement soigné aussi à ce niveau-là. Enfin, c'est un catalogue, la quatrième raison qui m'incite à vous conseiller l'acquisition de ce catalogue, c'est un catalogue biographique de plus d'une centaine d'artistes modernes et qui ont décliné des œuvres du maître, donc Ingres, pour le meilleur et pour le rire, pour certains. Mais la qualité des notes biographiques de cette partie seule du catalogue constitue à elle seule une bonne raison d'acquérir cet ouvrage pour compléter votre bibliothèque d'amateurs d'art. Voilà. Enfin, dernière raison et cerise sur le gâteau. Pour ceux qui auraient besoin de compléter leur documentation sur Ingres, sur le peintre, la conservatrice du patrimoine, directrice du musée Ingres, Florence Viguier, signe ici une présentation Ingres pour toujours, qui est remarquable, hein, autour de la vie et de l'œuvre de Jean-Dominique Ingres, plus familièrement appelé en famille Ingrou, je viens de l'apprendre là. Donc quelque chose de fort éclairant aussi pour une autre partie aussi fort éclairante pour Ingres et compagnie. Entre filiation et cannibalisme de Dimitri Salmon, collaborateur scientifique et conservateur du patrimoine du musée du Louvre. Voilà. Donc pour ces deux parties-là aussi, c'est quelque chose que je conseille fortement. Vraiment une très belle expo, mais surtout un catalogue à conserver dans les bonnes bibliothèques.
Merci Maurice Beau. Le coup de cœur suivant nous est présenté par Jacques Griffot. Une histoire de comptoir, si j'ai bien compris.
Oui, c'est une histoire de comptoir qui se passe à Paris dans les années 50. C'est le vin des rues, rue RUES, qui est écrit par Robert Giraud. Alors Robert Giraud, c'est 1921-1997, c'est un authentique piéton de Paris, c'est un témoin des bistrots de Paris, et voilà ce que Olivier Bailly, qui a écrit un livre sur lui, en dit. Robert Giraud, que ses amis appellent Bob, totalise à peine un quart de siècle au compteur. Là, c'est quand on est en 1945. Il vient de terminer ses études de droit, mais une chose est sûre, il ne sera ni avocat, ni notaire. Tracer le portrait de Bob Giraud, c'est facile. Bien que séco, il est choucard. Il plaît aux frangines, à cause qu'il a un petit air voyou. Ses crins drus et droits tombent en gouttes de pluie. Tenez, les voilà. Vous voyez, il a des...
Bravo, ah oui. À radio, ça passe idéal.
Ben oui, ça passe tout bien. Ça lui donne l'air d'un hérisson. Son nez, un bec d'oiseau. Au marigot fédérateur que l'on appelait jadis le comptoir, on nomme cet animal le pic vert. Vert, V-E-2-R-E, bien sûr. Alors, son livre, moi j'ai trouvé que c'était un livre très savoureux, Le vin des rues, donc c'est donc le Paris et les bistrots de Paris des années 50, et c'est écrit aussi dans un style, vous l'imaginez, dans un style un peu, il y a une gouaille, il y a une écriture gouaille, il y a de l'argot aussi, et moi je trouve ça très 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 savoureux. Et pour vous inciter à lire, d'abord deux choses, la première page, sur les Halles, étoiles de mer. La nuit a toujours le goût du vin rouge, du Beaujolais de préférence. C'est une opinion toute personnelle, d'accord. Mais je peux pas entrer dans un bistrot vers le soir sans qu'immédiatement mon verre soit là, servi sur le zinc. Dans des cas semblables, le vin rouge a une importance énorme. Les vrais buveurs de vin rouge se retrouvent toujours la nuit. Personne n'a jamais pu en expliquer la raison. Bon, vous voyez un peu le style. Philippe Claudel, qui présente le livre et qui dirige cette collection qui s'appelle « Écrit vin », écrit E-C-R-I-V-I-N-S chez Stock, dit que Giraud, grand connaisseur de l'anatomie et du métabolisme de la cité, de Paris, il ausculte, il examine, il note, il compile, il rapporte, mais il laisse le soin au lecteur de poser le diagnostic. Il saisit un Paris fragile et le résultat a la vigueur d'un instantané photographique. Ce qui est émouvant dans ce livre, c'est que tout est sincère, sinon vrai. Certes, on boit beaucoup dans le vin des rues, et jamais d'eau. L'eau, Robert Giraud la laisse à la Seine, et au grand ciel au-dessus des toits qui parfois s'ouvre en deux comme s'il se fendait d'un grand chagrin. Dans le monde de Giraud, on boit parce qu'il faut bien vivre un peu, continuer, se dire quelques mots, se donner quelques regards, afin de se croire moins seul, moins perdu. Vivre à deux sa misère, c'est un peu la moindre rire. Déjà, vous voyez, le style aussi de Philippe Claudel, que j'ai toujours trouvé Philippe Claudel, alors je vous rappelle que c'est bien sûr l'auteur des âmes grises, et il avait écrit aussi un très joli et très émouvant petit livre qui s'appelait Le Café de l'Excelsior, qui était un hommage, c'était l'histoire d'un petit garçon qui rentrait dans le café de son grand-père, où c'était un café avec de la toile cirée et autres, et puis un jour, le petit garçon qui revenait du collège, il n'y a plus le café, etc. C'est un très beau livre, Le Café de l'Excelsior.
Combien d'années au comptoir?
Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire.
Le vin des rues de Robert Giraud.
J'ai stock.
Alors l'été, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut prendre des bouquins où il y a des nouvelles, comme ça on peut les lire vite. On n'est pas, oui, pas obligé de se taper un gros roman.
On peut effectivement grappiller les nouvelles. Il y a toutes les écoles de lecture, ceux qui lisent d'une traite et ceux qui grappillent. En tout cas, voici un roman de, enfin un recueil de nouvelles. Rappelez-vous pour présenter un petit peu ce roman, enfin ce recueil. L'année dernière, j'avais évoqué pour la dernière émission de la saison, je vous avais conseillé de mettre dans votre valise Fleurs de Dragon de Jérôme Noirez. D'ailleurs, petite minute d'autopromotion, c'est un roman qui a récolté une moisson de prix, comme quoi on présente quand même de bonnes choses dans cette émission. Eh bien, cette année, je vous recommande Le Diapason des mots et des misères du même Jérôme Noirez, mais ce coup-ci, c'est plutôt à emporter dans la valise des parents. En effet, il s'agit d'un recueil d'une quinzaine de nouvelles, étranges, hallucinées, sombres, avec quelques pages d'humour, mais globalement, c'est tout de même assez horrifique. Les morts pourrissent au grand air, les enfants sont au supplice, la nostalgie est une atrocité, bref, des nouvelles où l'existence dissonne. Alors, j'ai trouvé quand même ce recueil admirable pour deux raisons. D'abord, Jérôme Noirez est un grand conteur d'histoires, de ceux qui vous prennent en haleine et ne vous lâchent pas. Que ces histoires se situent au Maroc, au Japon, qu'elles traversent les États-Unis avec de nombreuses péripéties, ou au contraire qu'elles soient confinées dans la poussière, sous un lit, en enfer, toutes ces histoires sont formidablement prenantes d'une imagination sans bornes. Et puis, cet auteur a l'art de distiller la peur, de faire d'un petit rien un monde inquiétant, d'un vague souvenir un univers ténébreux, et j'ajoute à la peur l'impertinence, cette façon de jouer avec nos tabous sociétaux ou civilisationnels, en quelque sorte des peurs irrationnelles où l'inadmissible triomphe toujours. Jérôme Noirez est véritablement un virtuose de l'impertinence, un aristocrate du glauque qui met comme personne en harmonie la dissonance. Vraiment, c'est très beau.
Non. Il m'en faut un tout de suite.
Ah non, mais c'est super bien écrit et vraiment c'est glauque et impertinent.
Le diapason des mots et des misères. Gardez-le en main parce que on arrive à la mi-temps de cette émission et vous avez choisi de nous faire une lecture extrait de ce recueil, L'Apocalypse selon Huxley. Dans un instant, juste le temps pour moi de rappeler que c'est l'émission Les Voix de l'Alma, l'émission des libraires montalbanais, et que si vous ratez tout ou partie de cette émission, eh bien vous la retrouvez sur le net, sur librairiemontauban.fr et sur cfmradio.fr.
Alors effectivement, l'extrait que je vais vous lire, c'est tout de même une nouvelle plutôt psychédélique. Voilà. J'avais une sacrée soif. Je me serais bien tourné pour fouiller la glacière, mais la manœuvre impliquait que je me penche sur la chair moite et vibrante d'agglos, que je la touche sans doute, et je ne sais pas, j'avais comme une répugnance. Le même genre de répugnance que j'avais ressenti lorsqu'il m'avait fallu aller seul, cette charogne de veau qui pourrissait au milieu de la route et qu'une patte m'était restée entre les mains, pendant que Mathieu, en pleine surdose de Keta, hurlait derrière la vitre que c'était pas une manière correcte de traiter le cadavre de sa grand-mère et qu'il allait sans doute devoir me tuer pour venger cette profanation. Serge, occupé depuis plusieurs minutes à dessiner au 1/1000ème le Yangtze-Kyung sur le bitume, s'était alors exclamé « Merde, je savais pas que ta grand-mère habitait les États-Unis, Mathieu. Oh, quelle horrible coïncidence. Tu pourrais faire gaffe. C'est sa grand-mère quand même, sa grand-mère. » Là, j'avais pensé « Aie pitié de nous, toi qui n'existes pas. » Et j'avais failli me barrer en courant la patte de veau pourrie sur l'épaule avec son escorte de mouche. Oui, à toutes jambes, aussi loin que l'horizon me le permettait, tel le lézard sur la terre brûlante. Dans la poussière, j'aurais inscrit la fausse piste d'un pan unijambiste. Rusé ! Ah, ils m'auraient jamais retrouvé, les cons. Et de les imaginer arpenter des sentiers rocailleux de l'Arcadie pendant que je me la coule douce dans le nord du nord, passant mes journées à assommer des saumons de confession mnémonite avec un fémur de veau. Finalement, Mathieu, ayant retrouvé son unique esprit et Aglo bien secoué sa seule queue, on avait décidé d'abandonner le bestiau au milieu de la route en disant qu'il pouvait servir d'exemple à d'autres bovins imprudents. L'Apocalypse selon Huxley.
Voilà, extrait du diapason des mots et des misères. L'actualité des libraires montalbanais démarre le 8 juillet au Scribe avec Serge Jeancourt.
Oui, au Scribe, donc à 19h, Serge Joncourt, que l'on reçoit dans le cadre de Place aux Nouvelles. Alors Serge Joncourt, son dernier recueil de nouvelles s'appelle « Combien de fois je t'aime ». Vous pouvez le trouver en grand format, mais aussi en format « J'ai lu » maintenant, et je vous recommande vivement de le lire. Et je vous recommande de venir rencontrer aussi Serge Joncourt, qui est un auteur tout à fait sympathique et un peu déjanté. Il a commencé par écrire un livre qui s'appelait « Vu », V-U, puis ensuite le suivant, il l'a appelé « UV » d'ailleurs. Et « UV », ça a été adapté d'ailleurs au cinéma. Les deux livres étaient publiés aux Dilettantes. Alors Serge Joncourt, vous pouvez aussi l'entendre si vous écoutez une émission qui s'appelle « Les papous dans la tête » le dimanche sur France Culture. Cette émission qui commence, je crois, vers 12h45 ou quelque chose comme ça, et qui dure jusqu'à 13h55, etc. Serge Joncourt, il est souvent, c'est un des invités des « Papous dans la tête ». Alors voilà, venez le rencontrer, on va passer certainement un bon moment. J'en profite pour dire que c'est au premier étage, vous savez, de la librairie, cette rencontre a lieu. Et là, la précédente exposition est terminée, mais on a une exposition d'été dans laquelle les artistes de la galerie sont représentés. Donc vous pourrez en même temps venir admirer un peu des artistes tant locaux que non locaux d'ailleurs. Voilà, Serge Joncourt, mercredi 8 à 19h.
Maurice Beau, il y a un concours photo qui suit son cours.
Et oui, un concours photo. Donc la librairie Beau Livre co-organise avec Nicolas Viol, le gérant de Fox Photo Montauban. Le thème du concours, c'est lire le ciel, regard aux étoiles. Alors je vous précise que c'est donc vous envoyez vos fichiers ou vos photos à Fox Photo Montauban, mais vous pouvez les déposer à la librairie, bien sûr. Ce n'est pas que de la photo d'astronomie, à la limite, mais il peut y avoir aussi des photos humoristiques, de reportages, trucages, montages ou tout autre style qui peut se rapporter à ce vaste titre et thème « Lire le ciel, regard aux étoiles ». Les personnes qui participeront donc à ce concours verront leurs œuvres exposées dans le cadre d'une manifestation « La tête dans les étoiles ». Rêver demain, la tête dans les étoiles, vendredi 24 juillet.
Est-ce que ça a un rapport avec la nuit des étoiles, justement?
Bien sûr. Ouais. C'est une manifestation que nous organisons sous la place nationale, qui sera un lever de rideau de la nuit des étoiles. Et nous organisons là une manifestation qui s'appelle la tête dans les étoiles, rêver de demain. Demain avec un S, puisque c'est une soirée qui sera consacrée à la science-fiction. J'aurai là des milliers d'ouvrages qui seront consacrés, spécialisés à la science-fiction, donc disponible et présenté en exposition. Il y aura des expos de... Vous aurez expos de photos, bien sûr, résultats du concours, et aussi plein d'autres surprises, puisque ce travail-là, cette soirée-là sera co-organisée avec la librairie Beau Livre, le comptoir de Sildavi et nos complices du passage 17, sans oublier Fox Photo Montauban.
Les lectures inouïes, c'est aussi dans ces eaux-là, non?
Oui, absolument. Ouais. Toujours dans le cadre de la nuit dans les étoiles. Donc, cette soirée SF vous propose deux lectures inouïes. Je rappelle le principe. Le principe des lectures inouïes, c'est de lire des textes qui sont assez peu lus dans les bibliothèques et les librairies, donc plutôt fantastiques, étranges, science-fiction. Donc là, deux lectures. À 20h30, Outrage et Rébellion de Catherine Dufour, dont j'ai parlé ici même le mois dernier, qui est un roman, interview-reportage sur un courant musical underground en 1320. Et puis, à 21h30, le diapason des mots et des misères que je viens de présenter. Alors, il y aura deux lecteurs, Isabelle Castelli et moi. Et puis, j'ai écrit également à Jérôme Noirez pour lui dire, pour l'informer de cette soirée. Il m'a dit, oh, c'est formidable, je viendrai et je lirai une nouvelle. Donc, la deuxième partie sera consacrée donc à la lecture de trois nouvelles qui s'appellent « Le conte pour les enfants morts-nés ». Tout un programme. Alors, également, il faut ajouter que pendant les lectures, Rosendo Lee, un peintre local que nous connaissons bien et qui participe à pas mal de manifestations, fera des dessins en direct pendant les lectures, non pas de la lecture, mais de ce qu'on lit, de l'univers des lectures. Alors donc 20h30, 21h30, les lectures ne dureront pas une heure, les lectures dureront entre 15 et 20 minutes, et vous aurez la possibilité, entre ces deux lectures inouïes, de vous promener sur la place nationale et de découvrir les autres activités.
Les faiseurs singuliers, Maurice Beau, qu'est-ce que c'est?
Alors, tout simplement, tous les samedis, Vous avez place nationale, sous les couverts, à l'abri des couverts. Vous avez des poètes de matériaux hétéroclites, des créateurs hors normes, des artisans d'art qui viennent exposer, mais surtout créer sur place, devant, en direct, devant le public. Donc, à chaque samedi, c'est non pas un, deux ou trois, mais c'est plutôt de 6 à 10 créateurs différents, tous aussi étonnants les uns que les autres, et qui ont un point commun, c'est cette générosité d'accepter de donner leur geste, de donner à voir leur geste, et vous verrez, la parole suit ensuite. Donc, tous les samedis, 2 juillet, et d'août, en collaboration avec le Passage 17 et la librairie Beaulivre.
Pour finir, encore un appel, la suite de l'appel que vous avez lancé le mois dernier.
Appel aux collectionneurs et aux artistes, créateurs, puisque à la rentrée, dans les librairies, nous proposerons, ça sera d'ailleurs en octobre, nous proposerons une exposition, enfin, ou des expositions d'objets et d'œuvres sur le thème le livre insolite ou l'insolite et le livre. Donc, si vous êtes collectionneur et que vous possédez déjà une œuvre qui pourrait cadrer dans ce thème-là, si vous voulez bien nous la confier, nous en prendrons le plus grand soin et nous la mettrons donc en lecture au public. Deuxième chose, vous êtes artiste, vous êtes créateur, vous voulez travailler sur ce sujet-là, prenez contact avec un ou l'autre des libraires et essayez de voir avec lui, de vous engager sur ce chemin de création. Je rappelle que ce sont des prêts qui nous seront accordés. Le cas échéant, si l'artiste veut vendre son œuvre, nous le ferons à son profit et à ses conditions.
On arrive au terme de cette émission et je vous demande, messieurs, eh bien de faire un tour d'horizon des ouvrages que vous nous avez proposés aujourd'hui. Jacques Griffaut.
Oui, alors j'ai parlé de L'Hirondelle avant l'orage, de Robert Little aux éditions Baker Street, que je vous ai vivement engagé à lire. Et j'ai parlé aussi du Vin des rues, de Robert Giraud, dans la collection Écrivain chez Stock. Je vous signale que c'est un livre qui avait été publié pour la première fois en 1955, il avait obtenu le prix Rabelais à l'époque.
Hugues Dedis.
Alors moi je vous ai présenté la réédition exhaustive de Sunny Moon par Bloch, Grand Prix de la ville d'Angoulême cette année, aux éditions de l'association, et l'admirable recueil de nouvelles qui s'appelle Le diapason des mots et des misères de Jérôme Noirez, c'est édité chez Griffe d'encre.
Maurice.
Je vous ai parlé du catalogue d'exposition Ingres et les modernes, coédité par le Musée Ingres et le Musée national des beaux-arts de Québec aux éditions Somogy.
Eh bien, messieurs, merci d'avoir participé encore à cette émission. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve en septembre.
En septembre.
Bonnes vacances et belles lectures.